Je vais lire dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, les versets 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale, pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce, qui nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère en tout, selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Ce début de la lettre aux Éphésiens résume tout ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a bénis, choisis, destinés d'avance, comblés, adoptés, rachetés, pardonnés, scellés du Saint-Esprit. Alors ça fait beaucoup de choses, mais c'est très beau. Et il nous a fait connaître et il nous a fait hériter. Et nous avons entendu, espéré et fait confiance. Voilà, ce texte dit tout ça à la fois. Tout cela pour que nous puissions chanter sa gloire. Tout cela par pure grâce. Quelle bonté, quelle beauté dans tout ce qu'il a fait. Merci Seigneur, infiniment, nous te célébrons. Et puis deux fois, il est dit que nous avons été prédestinés. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Et nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. J'aimerais étudier avec vous cette idée de prédestination. Je ne sais pas si vous aimez le mot, moi je ne l'aime pas beaucoup. Et pourtant il a été beaucoup développé par saint Augustin d'abord, et ensuite par Calvin et ses successeurs. Mais il voulait dire surtout que le salut ne vient pas de nous, mais du choix de Dieu seul, par pure grâce. Nous, dans prédestination, nous entendons destin. Croyons-nous donc au destin? Qu'est-ce que le destin? Dès la Mésopotamie ancienne, il y a l'idée d'une tablette au destin. L'avenir serait écrit. Et dans la mythologie grecque, la destinée personnifiée est une déesse. Alors, quand nous parlons du destin, il reste un peu de cette divinité obscure qui aurait tout prévu, quelque chose d'une force spirituelle aveugle, d'une idole païenne. Mais notre Dieu nous libère de l'esclavage des idoles, de l'esclavage à la déesse du destin. De toute évidence, si l'auteur de la lettre aux Éphésiens dit que nous sommes prédestinés, destinés d'avance, ce n'est pas pour dire que nous sommes assujettis à la fatalité en ce sens. Et en fait, en faisant varier la traduction, on peut éviter cette idée un peu parasite et problématique du destin. Le verbe traduit par prédestiné, c'est pro horizo. Pro veut dire avant, à l'avance. Et horizo fait penser à l'horizon. Et c'est la même racine. Horizo veut dire délimité. Et l'horizon, c'est la limite de ce que nous pouvons voir. Ainsi, Dieu nous a prédéfinis, il nous a délimité d'avance un espace, un horizon. Et je dirais un espace de liberté dans un vaste horizon. Dans cet espace, voir l'avenir, ce n'est pas voir un chemin tout tracé, mais au contraire, une infinité de chemins possibles. L'avenir est comme un désert de dunes, derrière lesquels peut apparaître l'imprévu, ce qui n'est pas encore, avec un sable qui vole et qui se reconfigure sans cesse. Mais dans cet espace mouvant, il demeure une ligne fixe vers laquelle s'élève le regard, l'horizon vers lequel nous allons. Nous sommes prédestinés non pas au sens d'un destin qui enferme, mais d'une destinée qui a du sens, d'une destination ouverte. Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit, et tout est possible à Dieu. » Et dans cette traduction, on n'entend pas que ce sont des pluriels. Toutes choses sont possibles à Dieu et à celui qui croit. Dieu a dans sa main tous les possibles, et non pas un avenir unique et nécessaire, une infinité de possibles. Et puis, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il est écrit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et encore, Jésus dit à Nicodème « Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Donc, un esprit qui fait vivre, qui souffle librement et qui n'est pas empêché par un avenir trop fixe. Dieu nous donne cet horizon et c'est une prédestination heureuse. Selon ces versets aux Éphésiens, notre horizon, c'est l'adoption filiale et la louange. Alors, Augustin et Calvin ont élaboré, constatant que tous ne croyaient pas, ils ont cru pouvoir en déduire que certains étaient prédestinés à la damnation. Mais pourtant, le constat que tous ne croient pas se limite au présent. Il ne dit rien de l'avenir. Même quand Jonas prophétise que Ninive sera détruite, cela ne se réalise pas, parce que la ville se convertit. Et il y a toujours cette possibilité de la conversion dans l'avenir. Dieu espère toujours en l'être humain. Aussi sombre que s'annonce l'avenir, un autre avenir est toujours possible. Nul n'est prédestiné à la mort éternelle. Et la volonté de Dieu est claire. Dieu veut le meilleur pour nous. Et il le dit dans ces versets. D'abord, dans le livre du prophète Jérémie. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans la première lettre à Timothée, Il est dit, cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quelque chose de similaire est dit aussi dans l'évangile de Jean. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. Donc la volonté de Dieu, c'est que tous les humains soient sauvés. Ô notre Père, que ta volonté soit faite. Nous sommes prédestinés à être sauvés selon la volonté de Dieu. Et Dieu est puissant pour accomplir sa volonté, pour nous sauver, pour nous faire grâce, pour parachever sa création et dire que c'est bon, quelle beauté. Dieu vit que cela était bon. La prédestination est liée à l'élection, c'est-à-dire au choix de Dieu. Les élus, c'est ceux qui sont choisis par Dieu. Oui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous devenions à son image et à sa ressemblance. C'est le projet qu'il a pour nous, dès la création. Dieu nous a choisis, c'est ce que dit aussi le livre du Deutéronome. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour que tu sois son bien propre parmi tous les peuples de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que le Seigneur s'est épris de vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le plus petit de tous les peuples. C'est parce que le Seigneur vous aime. Parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait fait à vos pères. C'est un choix de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un choix qui exclut, car en Jésus-Christ, désormais, le salut est offert à tous. Cet horizon, notre destination, est belle. Mais alors, quelle liberté avons-nous si nous sommes prédestinés ainsi? Eh bien, Dieu ne s'impose pas, il n'impose pas sa volonté, il se propose seulement. À la fois, il veut nous sauver, mais il nous laisse libres. Et il dépend de nous de lui dire oui. Nous avons toujours la possibilité de dire non. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur, ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie. La longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. C'est une alliance de vie, une alliance d'amour. Et quand deux personnes s'aiment, elles ont parfois l'impression que c'était leur destinée, que quelque chose d'inévitable s'est produit. Bon, il y a là un peu de mysticisme romantique, mais il y a aussi l'impression que cet amour nous dépasse, nous saisit, qu'il ne dépend pas de nous, qu'il est donné sans raison logique. Et cet amour est tellement intense qu'aucun autre choix ne peut être fait que de dire oui, c'est une évidence. Et en même temps, l'engagement des fiancés dans l'amour est suprêmement libre. Entre eux se donne ce consentement à cette question « veux-tu ?» La réponse « oui ». Et Dieu demande « veux-tu ?» Et notre liberté pourra répondre « oui, oui Seigneur ». Aimer, c'est à la fois être choisi et choisir. Être choisi ne dépend absolument pas de nous, c'est la liberté de l'autre, c'est le don de Dieu, c'est la grâce. Et de l'autre côté, choisir, ça dépend de nous. Choisir l'autre, choisir Dieu. Aimer, c'est être choisi et choisir. Dieu, tu nous aimes, tu nous as bénis et tu nous as choisis. Et tu nous ouvres un horizon, une destination. En réponse, nous voulons te choisir et te dire oui. Nous voulons l'horizon de bonheur que tu veux pour nous. Mon Dieu, mon Père, je t'aime. Amen.